11h09 sur Grand Sud FM, bonne fin de matinée à vous toutes et à vous tous. Nous retournons tout de suite sur le cours Mirabeau à Narbonne pour le Salon du Livre du Grand Narbonne. C'est pour retrouver Benjamin avec Julien Vidal.
Oui, Jean-Michel, je suis avec Julien Vidal que l'on peut retrouver sur le stand Libellis, le numéro 19. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors Julien, vous êtes militant écologiste, auteur de plusieurs ouvrages engagés et vous allez nous inviter à repenser nos gestes pour construire un avenir plus durable. Alors, vous avez publié notamment dernièrement 2030 Glorieuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce livre et notamment sur les thèmes qu'il propose ?
Ouais, merci de me donner la parole. Effectivement, je suis trop content d'être là au Salon du Livre de Narbonne pour défendre mes livres. Aujourd'hui, je suis très engagé sur ce que vous avez appelé les 2030 Glorieuses. C'est un livre, certes, qui a été publié chez Actes Sud, mais c'est aussi un podcast que j'anime depuis 2020 qui a donné lieu à un atelier. Et l'idée, c'est de se dire que au lieu de voir l'écologie comme une frustration, comme une punition, une culpabilisation, c'est vrai que souvent on associe un peu ces sentiments vis-à-vis de la démarche écologique. Au contraire, on peut le voir comme une formidable opportunité, à condition que préalablement à l'action, on ait le rêve, on ait l'utopie, on ait la projection vers un avenir meilleur. Et une fois qu'on a, disons, cette vision d'ensemble, qu'on se dit, bah bien sûr, moi j'ai envie d'aller vers là-bas, alors effectivement, on se met dans l'action au présent et on se rend compte de l'importance à la fois d'agir, mais aussi de raconter ses actions positivement.
Selon vous, Julien, quels sont les freins qui empêchent les citoyens de s'engager dans cette démarche écologique ?
Ouais, je l'ai un peu dit, mais je veux bien continuer à détailler cette réponse. La première chose, c'est que, et même si je comprends tout à fait que c'était nécessaire, on a longtemps parlé des catastrophes, des pertes, des dégâts présents et à venir sur la question écologique. Et donc, ça crée de la peur, ça crée de la frustration, ça crée un sentiment d'alarme et tout un tas de sensations, d'émotions qui sont assez négatives et qui, finalement, à terme, deviennent trop pesantes et qui peuvent même carrément créer un effet contre-productif, à savoir du déni. À force d'entendre toutes ces mauvaises nouvelles, on n'a plus envie de s'y confronter. Le présent est déjà suffisamment dur, donc pourquoi continuer à aller vers ces choses qui nous sont chères, mais qui en fait nous font du mal, qui nous pèsent au quotidien. Donc je pense que là, il y a une des premières choses qui tient à ça. Et puis la deuxième, en fait, c'est de limiter l'action écologique et le débat écologique d'ailleurs, à des conversations liées à l'énergie, à la voiture électrique, au nucléaire, à des choses très techniques. En fait, on n'a pas besoin du comment en première conversation, on a besoin du vers quoi. C'est pour ça que je travaille au 2030 Glorieuse. Tant qu'on parlera de la technique avant de la destination, on se prendra les pieds dans le tapis. Imaginez qu'un grand voyageur, on lui dise, tu veux, je dis n'importe quoi, pardon, l'exemple me vient comme ça, mais tu veux quel bateau, tu veux quel type de voile, tu veux quel type de boot, tu veux, en fait, je sais pas. Je veux d'abord savoir où on va. Je vais affronter quelle mer. Je vais devoir être autonome en eau pendant combien de temps. Donnez-moi déjà la destination, les contraintes qui viennent de la destination, et ensuite on verra la technique. Et je pense que ces deux raisons font qu'aujourd'hui on se retrouve un peu piégé, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous manque pour vraiment prendre la hauteur de tous ces enjeux en réalité.
Quel conseil, Julien, justement, donneriez-vous à nos auditeurs pour commencer à agir dès aujourd'hui, même à petite échelle ?
Et se rendre compte que en fait ils agissent déjà de plein de manières. Et puis après, je tourne un peu autour de cette notion depuis le début de notre interview, mais oser mettre du rêve, oser mettre de l'utopie. On a malheureusement abîmé la notion d'utopie. Aujourd'hui, on dit de quelqu'un qui est utopiste que il est hors sol, que c'est un bisounours et qu'il se rend pas compte des contraintes du présent, alors que le rêve c'est l'étincelle pour un changement majeur. Et tout ce qui fait aujourd'hui nos fiertés et nos évidences dans notre société, la sécurité sociale, les avions qui volent dans le ciel, Internet, en fait, c'est né d'utopie, de personnes qui ont été raillées, qui ont été moquées parce que supposément ce qu'ils proposaient était impossible, intenable. On a besoin de se reconnecter à ça. On a besoin de se dire, oui, la Lune, demain, c'est possible. On a besoin de se dire, un mode de vie qui ne mette pas l'argent, la possession, la domination, l'exploitation, c'est possible. Et puis ensuite, en faisant, on verra comment on s'agrémente des contraintes et de tout ce qui fait que le présent est une négociation permanente. Je pense que vraiment, il faut qu'on redore ce blason de l'utopie. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on se sente tous capables de le porter, ce blason-là, parce que c'est pas une question de théorie, c'est pas une question d'expertise, c'est une question de rêve. Et on est tous avec cette âme enfantine au fond de nous, parfois plus ou moins cachée. Mais à révéler, c'est assez simple. Et je vous parlais tout à l'heure de l'atelier 2030 Glorieuse. Nous, on organise des conversations dans les entreprises, dans les collectivités, activités dans les écoles, dans les médiathèques, avec des jeunes plus ou moins jeunes, parce que parfois il y a quelques cheveux blancs qui sont là. Et en réalité, c'est fou de se dire que 5-10 minutes de cadre pour que les gens s'autorisent à commencer leur phrase par « et si » plutôt par « oui mais » et on y arrive. Et là, j'étais hier avec des étudiants de Narbonne et ces étudiants, en fait, c'est fou parce qu'à chaque fois que je leur posais la question sans cadre, bah, ils n'y arrivaient pas, ils étaient un peu perdus. 5 minutes d'accompagnement, de dessin, de proposition et ensuite, c'était des rêveurs vraiment impénitents et ils avaient une puissance d'utopie qui était incroyable et je pense qu'on peut y arriver avec tout le monde. J'en suis même persuadé parce que ça fait 5 ans que je le fais.
Pour terminer cette interview, Julien, à titre personnel, quelle est votre vision de l'avenir ?
Eh ben, elle est hyper floue et j'espère qu'elle le restera. Parce que si elle se fige, ma vision, j'ai peur que derrière, elle m'amène plus à me poser des questions, à avoir cette curiosité de chaque jour, me dire et si en fait quelqu'un d'autre avait un peu plus raison sur tel sujet, il voyait un peu plus clair sur tel autre. Et donc, c'est une vision lumineuse, mais assez floue. Et je pense que ce flou, il est délibéré. Lumineuse, j'insiste, parce que en fait, je sais que demain sera compliqué. Et quoi qu'il arrive, que je sois utopiste ou pas, demain va être compliqué. Mais en fait, c'est tout ce que je nous souhaite, une vie compliquée, une vie complexe, une vie éreintante d'avoir vécu, éreintante d'avoir aimé, éreintante d'avoir essayé. Et j'ai envie de terminer ma vie vraiment fourbue et plutôt qu'un confort qui nous amène à être sur notre canapé, à scroller sur un morceau de verre et de se dire sur notre lit de mort, mais finalement, qu'est-ce que j'ai foutu de tout ce temps qui m'était imparti. Donc c'est une vision, c'est vrai, floue et pourtant hyper lumineuse qui m'entraîne, qui m'attire et qui fait que tous les matins je me réveille en me disant mais qu'est-ce qui va me tomber de génial sur le coin de la figure aujourd'hui.
Donc les auditeurs de Grand Sud FM peuvent venir vous rencontrer donc sur le stand Libellis numéro 19, donc Julien Vidal, et vous êtes également cet après-midi à l'espace rencontre, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, on va faire un format qui va être assez chouette, c'est un débat mouvant, et donc plutôt que d'être dans l'écoute d'un auteur qui vient raconter sa vie comme s'il savait tout sur tout, là l'objectif c'est plutôt de mettre en mouvement les gens et d'organiser un débat, vous allez voir, ça change, ça donne la parole à tout le monde, c'est joyeux, c'est ludique, et donc on va parler de cette notion d'avenir et d'utopie pour savoir si c'est un pouvoir ou un frein.
Donc rendez-vous de 14h à 14h45 cet après-midi. Merci beaucoup Julien Vidal.
Merci à vous.
Allez Jean-Michel, on reste branché sur Grand Sud FM. On rappelle qu'on est en direct jusqu'à midi pour vous faire découvrir un petit peu plus en détail ce salon du livre du Grand Narbonne.
Merci Benjamin, on se retrouve après cette petite pause.
Grand Sud FM.
11h23 minutes sur Grand Sud FM. Bonne fin de matinée à vous toutes et à vous tous. Nous sommes toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne et on va retrouver Marilyn avec Judith Pérignon.
Et oui, Judith Pérignon qui est sur le stand 19, le stand de Libellis, qui est journaliste et romancière et qui a écrit de nombreux récits, notamment autour de figures oubliées, de faits de société. Donc bonjour Judith.
Bonjour.
Judith, aujourd'hui vous êtes venue sur ce salon du Grand Narbonne nous présenter plusieurs de vos ouvrages. On a nous parlons d'un lieu où tout est fragile. On parlera aussi tout à l'heure de l'autre Amérique qui est le dernier. Alors pour nous parlons d'un lieu où tout est fragile. Judith, vous y racontez la vie de Rachid que vous avez rencontré lors de vos ateliers d'écriture. C'est au centre d'hébergement d'urgence du SAMU social à Paris. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est un homme que je côtoie depuis 5 ans maintenant, tous les mercredis après-midi. Il a 89 ans et une histoire qu'il révèle par bribes et de manière, dans une langue magnifique, mais aussi un peu mystérieuse. Et j'ai voulu, en parlant avec lui, reconstituer son parcours.
Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec Judith Pérignon. C'est vrai que cet ouvrage est particulièrement touchant. On a aussi l'autre Amérique. On change de décor. Là, c'est quand Roosevelt défiait le capitalisme aux États-Unis. C'est le dernier. Il est sorti le 7 mai.
Oui, il est inspiré d'un documentaire que j'ai fait pour France Culture et il éclaire beaucoup ce qui se passe actuellement aux États-Unis puisque le moment Donald Trump est totalement la revanche sur le moment Roosevelt qui est pourtant ancien, mais Roosevelt a inventé la puissance publique et la redistribution aux États-Unis et c'est ce qui est en train d'être abattu par Donald Trump.
Alors justement, Judith Pérignon, vous aimez évoquer comme ça des moments clés de l'histoire et ça se sent, vous aimez explorer les époques, l'histoire, la politique.
Oui, parce que j'aime comprendre dans quel monde je vis. Et l'histoire va de plus en plus vite, les médias vont de plus en plus vite et je pense qu'on a de plus en plus peur parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Quand on prend le temps de s'arrêter sur même ce qui s'est passé 50 ans avant, on comprend mieux et on a moins peur.
Et en règle générale, vous, Judith Pérignon, vos livres donc sont très documentés, presque des enquêtes. Comment est-ce que vous travaillez justement concrètement ? Est-ce que vous commencez par le terrain, par les archives, par les rencontres, ou ça vient, voilà, c'est d'abord la rencontre et puis ensuite on fait des recherches peut-être sur la période d'histoire ?
En fait, c'est tout en même temps. Souvent, une rencontre ou un livre, vous trouvez une note en bas de page, une archive pas très explorée et vous foncez, qui vous donne un nom. Et puis, donc tout ça se nourrit et tout se fait en même temps. Et les mots, la langue jaillit un peu de cette immersion-là, en fait.
C'est le côté enquête qui vous plaît quand même, hein ?
Oui, parce que ça crée, chaque livre devient une bulle, en fait, avec ses personnages, ses voix, ses découvertes. Et ce que doit ressentir normalement le lecteur avec un bon livre, c'est exactement ce qui nous arrive, quitte à s'y noyer parfois, quand on le fait, ce livre.
Alors vous, Judith Pérignon, vous êtes venue à l'écriture en parallèle de votre carrière de journaliste. Qu'est-ce que finalement l'écriture de livres vous permet de dire, de faire que le journalisme ne vous permettait pas ?
Ben, la littérature, disons, dans toutes ses formes, permet d'aller beaucoup plus loin. C'est comme la 3D sur une image. C'est vraiment rentrer en profondeur dans la vie des gens, dans leurs pensées, arrière-pensées, souvenirs qu'ils n'ont pas le temps de faire émerger dans une interview pour un journal ou une radio. Donc c'est approfondir et presque animer l'image, quoi. C'est aller beaucoup plus loin, en fait.
Donc c'est quelque chose que vous n'arrêterez pas, hein. Vous allez continuer comme ça, en même temps les romans et en même temps le côté journalistique.
Oui, parce que tout ça se nourrit. Moi, il y a des livres qui me viennent quand je suis en reportage. Il y a un roman que j'aime beaucoup, Là où nous dansions, c'est né d'un reportage. Donc l'actualité, la réalité que je raconte comme journaliste, elle mérite parfois d'être prolongée par du roman ou du document.
Alors, on aura cet après-midi à 16h l'occasion de vous retrouver jusqu'à 16h45 à l'espace Rencontre qui, je le rappelle, est sur le cours Mirabeau, tout au fond du Salon du Livre du Grand Narbonne. Vous serez avec Benoît Séverac, auteur de l'ouvrage Le bruit de nos pas perdus. Qu'est-ce que vous allez nous proposer tous les deux ?
Mais je crois que ce qu'on cherche l'un et l'autre, et c'est là-dessus qu'on va croiser nos regards, c'est justement, je crois que dans l'intitulé, il y a le mot d'humanité. Et c'est trouver dans nos personnages ou les gens qu'on décrit même à travers le document, c'est la question humaine en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cette question humaine ? C'est un sujet inépuisable, mais c'est celui-là dont on va débattre et qui nous fait écrire en fait.
Et vous pourrez justement échanger avec les lecteurs, les lectrices qui sont là avec vous, il y a une soixantaine de places. Et aujourd'hui, on vous retrouve donc sur le stand numéro 19, comme je le disais, le stand de Libellis, aujourd'hui et demain matin, Judith Pérignon.
Oui, je quitte la ville par le train de midi, donc c'est maintenant ou demain matin.
Vous êtes déjà venue sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne ou c'est une première ?
C'est une première, et en fait j'ai découvert, je suis venue il y a 6 mois pour travailler avec des élèves du lycée Louise Michel, en sachant que je viendrais, je les ai revus hier. Donc j'aime bien quand un festival littéraire permet aussi des rencontres, et pas juste une table pour vendre ses livres. Et il y a eu de très belles rencontres dans les établissements d'ici, et donc je suis ravie de ce passage.
Donc vendredi, vous êtes allée au lycée Louise Michel, vous aviez travaillé sur quel ouvrage ? Quels ouvrages est-ce qu'ils ont étudié, ces élèves ?
En fait, ils avaient étudié Les faibles et les forts, qui est un roman américain que j'ai publié en 2013, et qui est souvent étudié maintenant, enfin je rencontre beaucoup de lycéens sur ce roman-là, et donc je les avais rencontrés au mois de janvier. Et puis après, avait dérivé un exercice d'écriture qu'ils m'ont présenté hier, et je les ai trouvés gonflés, talentueux, percutants. C'était très encourageant.
C'est ça que vous aimez, ces moments d'échange finalement avec les plus jeunes, même les plus âgés, mais ces moments d'échange finalement de travail ensemble.
Oui, bah, parce que quand on rencontre notamment des plus jeunes, on sait bien que la lecture est en déclin, qu'eux, ils sont assaillis d'outils que moi, j'avais pas ado. Et il faut absolument que les jeunes lisent, parce que justement, c'est un outil critique, c'est se prémunir contre beaucoup de choses. Et donc, voilà, il y a quelque chose à gagner quand on est avec eux, c'est leur montrer les enjeux des livres.
Bon, bah, n'hésitez pas à venir retrouver Judith Pérignon, stand numéro 19, aujourd'hui ou demain matin, et puis surtout cet après-midi, 16h, avec Benoît Séverac, je vous rappelle, auteur de l'ouvrage Le bruit de nos pas perdus. Merci beaucoup pour les minutes que vous nous avez consacrées, et puis je vous souhaite un excellent Salon du Livre et un bon séjour à Narbonne.
Merci et au plaisir de vous rencontrer au salon.
Quand je joue, c'était Julien Clerc sur Grand Sud FM, 11h34, bonne fin de matinée. Nous retrouvons tout de suite Benjamin depuis le Salon du Livre du Grand Narbonne. Il est en compagnie de Benoît Séverac.
Oui, Jean-Michel, en compagnie de Benoît Séverac, que vous pouvez retrouver sur le stand Librairie La Tête dans les Étoiles, le numéro 10. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'auteur du livre Le bruit de nos pas, à la manufacture de livres. Est-ce que c'est la suite de votre précédent livre Tuer le fils, puisque l'on retrouve notamment l'inspecteur Cerisol et sa brigade?
Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est pas un inspecteur, c'est un commandant. Vous savez que les inspecteurs, ça existe plus, mais oui, oui, c'est le retour de ce trio de flics qu'on avait dans Tuer le fils, effectivement.
Alors, on retrouve notamment dans ce livre le thème de la transmission et de la parentalité. Est-ce que l'on peut parler peut-être de marque de fabrique chez vous, Benoît Séverac?
Oui, je crois que je dois maintenant, après 20 romans, avouer ou alors tout simplement me rendre compte et assumer le fait que, effectivement, depuis le début, je creuse ce sillon. Mais je pense que je suis pas le seul à être un peu obsédé par cette histoire de transmission au sein de la famille, de parentalité, d'héritage. Je crois que c'est vieux comme la littérature, en fait, hein.
Justement, comment vous est venue cette façon d'aborder la transmission?
Oh, par des questionnements personnels. Je crois que mes romans, dans la façon de tourner autour du pot au départ, et puis d'y aller un peu plus franchement au cours des dernières années, des derniers romans, reflètent un petit peu mon cheminement personnel. Ouais.
Comment vous l'avez construit, ce roman, Le bruit de nos pas perdus, concrètement?
J'ai aimé l'idée de créer plusieurs niveaux de narration, c'est-à-dire qu'il y a trois enquêtes en fait et qui nous permettent d'explorer des personnes différentes, des personnages différents, mais qui finalement parlent toutes du couple. Cette fois-ci, c'était vraiment le couple, les relations au sein du couple, les relations délétères, parfois toxiques ou très belles, mais il est vraiment en question du couple. Et donc il y a deux enquêtes de police et une enquête plus personnelle qui sont livrées dans ce roman.
Alors Benoît Séverac, vous jouez avec tous les codes du polar en fait, énigme, procédure policière, roman noir social, et c'est celui qui domine. Est-ce que l'on peut dire que votre livre, Le bruit de nos pas perdus, c'est l'anti-thriller?
Alors je voudrais, c'est une question vache parce que ça m'oblige ça, pour être honnête, oui, c'est vraiment le procédé inverse de ce que on met en branle dans le thriller, mais j'ai énormément de respect pour les gens qui écrivent du thriller. Je reconnais la qualité littéraire de tout cela, mais c'est vrai qu'on est un peu dans l'anti, mais anti, ça fait contre. Et je suis pas contre le thriller, mais c'est vrai que mes ressorts sont réalistes. Alors que je pense dans le thriller, en tout cas dans ma vision du thriller, hein, c'est peut-être certainement à nuancer, on pourrait me contredire, mais dans ma vision du thriller, on est dans le fantasme du crime un petit peu. Alors que là, moi, je suis vraiment au plus près de l'humain tel qu'il est vraiment dans la vraie vie, à savoir que le travail d'un policier au quotidien ou tout au long de l'année est relativement non pas simple, loin de là, mais malheureusement le crime est souvent banal et pas tellement extraordinaire, et le fait d'un tueur en série, psychopathe, enfin voilà, dans ma vision du thriller encore une fois.
Hein. Quels sont vos projets, Benoît Séverac?
Je suis en train d'écrire ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire une espèce de ramification d'un roman que j'avais fait paraître en 2009, qui s'appelle Rendez-vous Élise Avril, et qui a eu une belle carrière, et que je voudrais... À qui je voudrais donner une deuxième vie, mais une extension, en prenant un personnage secondaire de ce rendez-vous du 10 avril, qui est aujourd'hui épuisé, et en faire un personnage principal, et explorer la thématique du rôle des femmes pendant la guerre de 14-18. Donc là, je suis en train d'écrire ça.
Et pour les auditeurs de Grand Sud FM qui souhaitent notamment vous rencontrer, donc outre le fait que vous soyez donc sur le stand numéro 10, Librairie La Tête dans les Étoiles, vous êtes également cet après-midi à l'espace Rencontre. Hein.
Oui, alors là, je vais faire la pub pour une consoeur, Judith Pérignon, dont j'ai découvert le travail que je ne connaissais pas. Je la connaissais via ses podcasts sur France Culture ou France Inter, je sais pas, en tout cas sur vos concurrents directs. Mais non, blague à part, j'ai découvert son travail d'écrivaine et j'ai été vraiment embarqué. J'en ai lu quatre d'un coup pour la rencontre que nous aurons cet après-midi. C'est vraiment quelqu'un qui est finalement, alors qu'elle est journaliste au départ, fait un travail très proche du mien, je trouve. Il y a beaucoup de résonance, c'est ce qu'on explorera cet après-midi dans la table ronde. Mais elle est au plus près de l'humain et elle fait... Même si c'est classé dans le travail journalistique, elle fait un travail de fiction romanesque et qui est très proche du mien, ouais, je trouve.
Donc rendez-vous de 16h à 16h45 cet après-midi pour parler de l'humanité au cœur du roman, donc en compagnie de Judith Perrignon. Merci beaucoup Benoît Sévrac.
Merci à vous et bon salon.
Voilà Jean-Michel, nous étions avec Benoît Sévrac, que vous pouvez retrouver donc au stand numéro 10, la librairie La Tête dans les Étoiles. Et puis nous, on continue notre tour d'horizon sur Grand Sud FM pour faire découvrir les nombreux auteurs que vous pouvez y retrouver.
Bonne fin de matinée à vous toutes et à vous tous. Nous sommes toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne sur le cours Mirabeau. On va retrouver tout de suite Marilyn du côté stand animation.
Eh oui, il y a un espace animation sur le cours Mirabeau de ce Salon du Livre du Grand Narbonne. C'est le stand numéro 7. Voilà, si vous avez envie de venir. On a Cultura qui est là et on a notamment Eric Davans qui est spécialiste ludo-créatif chez Cultura. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Donc Eric, qu'est-ce que vous nous proposez sur ce stand Cultura, cet espace animation ?
Alors on propose pas mal de petites choses. En fait, on a les ateliers gratuits pour les enfants. Il y a 4 ateliers même sur la journée. Et ensuite, en fait, on présente et on fait des démonstrations de jeux de société en partenariat avec Yellow qu'on a mis en avant cette année.
Voilà, et on a 3 gros plateaux de jeux de société, c'est ça ? On peut juste les citer ?
On va avoir le Codename, on va avoir le Flipset, on va avoir le Cracklist, on va avoir Quarto, Corridor. On a une douzaine de jeux à peu près à pouvoir faire essayer à tout le monde.
Voilà. Et moi, je vous conseille de venir voir Eric Davan parce que c'est le spécialiste quand même des jeux chez Cultura. Vous adorez ça, hein ?
Moi, je suis un vrai passionné et j'adore partager en fait ce que j'aime en fait avec toutes les personnes qui passent me voir, que ce soit ici ou en magasin.
Eric, c'est gratuit tout ce que vous proposez sur ce stand Cultura ?
Tout est gratuit, donc même le sourire.
Donc n'hésitez pas à venir, vous êtes là toute la journée aujourd'hui et demain ?
C'est ça, de là jusqu'à 19h et demain jusqu'à 17h je crois, de mémoire.
Voilà, donc vous n'hésitez pas, oui, vous êtes là sur le Salon du Livre, donc n'hésitez pas à venir faire quelques activités à vos enfants et puis surtout à venir tester les jeux. Le coup de cœur d'Eric Davan ?
Ah, mon coup de cœur cette année, c'est le Flipset, petit jeu simple. Dans la lignée du Blackjack, en fait, on joue en stop ou encore, et c'est vraiment sympa, quoi.
C'est celui que j'avais testé, je crois, la dernière fois, c'est ça. Bon, le jeu idéal. Merci beaucoup, Eric.
Et merci à toi.
Allez, et puis, pourquoi je suis venue sur ce stand animation ? Je suis avec Guillaume Molinier, ça vous parle probablement. Il est à la tête de Plastimage à Narbonne, et il a aussi créé un jeu de société qui s'appelle le 6 du Nord, et qui est fabriqué en France. Voilà, c'est le jeu narbonnais. Bonjour.
Bonjour.
Donc ce jeu, il est sorti quand ? Expliquez-nous un petit peu, Guillaume.
Ce jeu, il est sorti il y a 2 ans précisément, à la suite d'une réflexion qu'on se faisait dans notre entreprise de Plastimage à Narbonne, qui est une entreprise qui fabrique de la publicité. Et la gestion de nos déchets était une problématique. On s'était demandé comment retraiter ces déchets. Et nous est venue l'idée de fabriquer à travers nos déchets ce jeu de société.
Alors pourquoi le 6 du Nord ?
Donc le 6 du Nord, parce que c'est un jeu qu'on a créé avec une bande de potes il y a une vingtaine d'années quand on était jeune étudiant. On animait pas mal les bars où on travaillait et l'un d'entre nous était du nord de la France. Le jeu tourne autour du 6. On s'est dit, on va appeler ça le 6 du Nord. Ça faisait sens dans l'histoire de notre projet.
Combien de temps ça prend à créer un jeu de société ? Parce que j'imagine que c'est une aventure quand même, Guillaume Molinier.
Alors c'est une aventure, c'est difficile, c'est une aventure entrepreneuriale, surtout quand on n'est pas du secteur d'activité. Donc ça fait 2 ans qu'on le développe et regardez, on est à peine présent aujourd'hui chez Cultura à Narbonne. On essaie de pénétrer le marché. Il y a beaucoup d'industriels sur le marché, il y a beaucoup d'éditeurs. Et nous, petite entreprise auto-édition et qui fabrique dans le sud de la France, on n'est pas forcément... c'est pas un tapis rouge qu'on nous déploie. Donc oui, il faut relever les manches. Et le plus compliqué finalement, c'est de le faire connaître. C'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui sur le Salon du Livre à Narbonne, pour essayer de faire connaître encore plus notre jeu en local.
Ce jeu, on y joue quand ? On y joue en famille, entre amis, à l'apéro ?
Alors initialement, il est issu de l'apéro, on va pas se mentir. C'est un jeu convivial où les parties durent entre 5 et 10 minutes. Et donc on peut commencer à y jouer à l'apéro, c'est très sympa. Et l'avantage, c'est qu'on peut y jouer avec les enfants, on peut y jouer avec des personnes âgées. Il est très adaptable, transgénérationnel et facile à jouer. Donc au final, l'idéal, c'est d'y jouer à l'apéro, mais on peut y jouer aussi tout le reste de l'année, quoi.
Bon, c'est quand même un jeu qu'il faut avoir, hein. Quand on est Narbonnais ou quand on est habitant de la Côte du Midi, il est impératif de venir chercher le 6 du Nord. Vous fabriquez en France? Ça, c'est quand même hyper important.
Ça, c'est une volonté. Alors, pour la petite histoire, on avait exposé il y a un an, au salon du Made in France qui avait lieu à Paris. On avait été lauréat de cette expo, ce qui nous avait valu d'être reçu par le président de la République à Paris. Où on avait exposé dans le palais de l'Élysée pendant 3 jours aussi. Et voilà, et on a cet ancrage-là français où on veut essayer de continuer à fabriquer en France, à créer des emplois en France. Et bon, par contre, la compétitivité de fabriquer en France, elle est compliquée malgré tout, quoi.
Vous avez exposé au palais de l'Élysée, voilà. Vous avez fait jouer l'Élysée?
Ouais, on a fait jouer l'Élysée pendant 3 jours, en juillet dernier. C'était juste incroyable, 10 000 visiteurs par jour. Et ouais, c'était une belle expérience. Et puis voilà, le président Macron nous a demandé de continuer à fabriquer en France. La facilité, c'est d'aller faire fabriquer en Chine, on va pas se mentir, ou hors de nos frontières. En tout cas, pour pénétrer les marchés, être placé en prix, c'était l'idéal. Mais non, on a pris le parti d'essayer de fabriquer en France et d'avoir un prix compétitif aussi.
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a testé le 6 du Nord?
Alors, on va pas dire que nous, on l'a fait tester directement, mais j'aurais pas cette prétention-là. En tout cas, il est venu nous saluer pour nous féliciter et nous encourager à continuer à fabriquer en France.
Moi, j'aimerais quand même inviter les auditeurs de la Côte du Midi à venir le découvrir parce qu'on peut y jouer. Et puis en plus, vous êtes là et c'est un jeu fabriqué en France qui est à moins de 20 euros.
Ouais, exactement, mais c'est le positionnement prix qu'on a choisi, hein. On a fait une étude de marché. On s'était dit qu'en dessus de 20 euros, ben, on ne serait pas placé. Donc, on réduit nos marges. C'est pour ça que c'est aussi difficile de les distribuer. Mais c'est un parti pris et l'idée, c'est de le faire connaître au national pour faire du volume. Maintenant, on a besoin de faire du volume et d'être connu un peu partout en France.
Alors, on ressent quand même l'esprit du partage et pas l'esprit du gain, hein, finalement. C'est un peu ça, quoi. Vous faites plaisir avec ce jeu, Guillaume Molinier.
Ouais, c'est vraiment l'ADN, hein. On est né là-dessus. L'histoire, elle nous parle parce que on l'a créé comme ça. C'était le vecteur de jeux de société et de comptoir où, là où aujourd'hui, le digital prend beaucoup de place, nous, l'idée, c'était de pouvoir créer du lien autour d'un comptoir. Et on voit qu'aujourd'hui, on y revient petit à petit et c'est vraiment là-dessus qu'on espère, surfer en ce moment, quoi.
Est-ce qu'on aura la chance de jouer avec vous si on vient sur le stand 7, l'espace animation du Salon du Livre du Grand Narbonne, Guillaume Molinier?
Exactement, moi je suis là donc toute la journée, une grosse partie de la matinée et une grosse partie de fin de journée, et demain matin également, donc pour faire découvrir le jeu sur place.
Vous me disiez tout à l'heure que ce jeu, vous serez amené à le faire évoluer. Est-ce que justement, la rencontre comme ça avec les joueurs, c'est important et c'est ce qui vous donne un petit peu les clés, les indices, entre guillemets, pour savoir comment faire évoluer ce jeu?
C'est marrant que vous parliez de ça. On a fait une campagne de crowdfunding pour nous aider à lancer ce jeu. Et dans cette campagne-là, dans des packs, on avait un pack qui disait « Aide-nous à faire développer le jeu ». Et les gens qui ont pris ce pack-là font partie d'une communauté en interne chez nous avec qui on échange régulièrement pour justement faire évoluer le jeu. Donc, on a une petite communauté avec qui on leur demande de travailler avec nous sur l'évolution. Et au contact directement du client, forcément, mais c'est là qu'on arrive à faire évoluer les choses. Ouais.
En tout cas, vous avez l'air passionné, vous avez l'air de vous éclater avec ce jeu, Guillaume Molinier.
Alors, c'est sûr qu'on est passionné. Alors moi, je suis pas du tout du jeu de société au départ, mais ce que j'aime, c'est les échanges, en fait, et créer des concepts, des projets, là où on maîtrise rien, ni les codes, ni le marché. Mais je pense qu'avec le cœur et avec l'humain aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec de l'argent et du pouvoir.
Bon bah venez passer un moment de partage comme ça avec Guillaume Molinier, avec Eric Davan, donc Eric qui est le spécialiste Ludo créatif chez Cultura, et Guillaume Molinier qui vous attend, qui a envie de jouer avec vous, le 6 du Nord, c'est fabriqué en France et c'est Narbonnais. Donc on va pas être chauvin, mais enfin il faut venir l'acheter, je pense qu'il faut venir au moins le découvrir. Merci beaucoup Guillaume Molinier et bon Salon du Livre.
Merci beaucoup, au revoir.
Allez, voilà ce Salon du Livre du Grand Narbonne. Donc, ce Salon du Livre du Grand Narbonne, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que ce salon, c'est la 11e édition pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Grand Sud FM. Ce salon donc qui se tient aujourd'hui et demain. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Alors, j'étais en train de chercher les horaires, Benjamin. Donc, ce soir, on finit à 19h, il me semble, et demain à 17h. On a environ 90 auteurs et autrices. On a des illustrateurs, des illustratrices, des artistes personnalités également qui vous attendent. Et puis, surtout, vous avez cet espace rencontre, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, cet espace rencontre, il y a des rencontres un petit peu... Il y en avait ce matin. Bon, on avait la dictée, surtout ce matin. Il y a des rencontres cet après-midi. Midi, on vous l'a dit tout à l'heure, avec de nombreux auteurs, comme notamment le parrain de cette édition, Michel Bussy. Donc, n'hésitez pas à venir. à vous renseigner, vous prenez le programme à l'entrée et puis allez à la rencontre des auteurs surtout. Il y aura plein d'animations, vous l'avez compris, des tables rondes et des animations qui vont rythmer tout ce week-end. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera là encore cet après-midi pour vous faire partager des moments sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Alors je suis en train d'essayer de regarder quelle heure il est. Donc il est 11h55, mais nous on reviendra tout à l'heure à 14h, et on sera avec Madi Tcherfi. Ça doit parler à certaines personnes hein, qui sont nées peut-être dans les années 80, si vous pensez à Zebda. Eh bien, il sera sur ce salon du livre du Grand Narbonne, et on aura l'occasion de le rencontrer tout à l'heure.